Vous écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Léa Schiavo.
Et je suis Marine Stizy. Bienvenue dans le 7e épisode.
La vérité se cache-t-elle dans les bouquins? Peut-on découvrir le monde au travers des livres?
Pour ce 7e épisode de La Vagabonde, Captive, nous allons parler de l'univers carcéral et plus précisément de femmes emprisonnées.
Elles sont captives, emprisonnées à tort ou à raison, dans la fiction ou la réalité. Nous allons parler de ces femmes qui ont été détenues et de celles qui ont raconté leurs histoires. La prison, surtout pour les femmes, n'est pas quelque chose qui se raconte. Parce qu'elles sont une part minime de la population carcérale, en France par exemple, elles ne représentent que 3,5% de la population carcérale, elles sont largement mises au second plan, voire victimes d'injustice à l'intérieur de l'institution, et totalement invisibilisées.
Malgré cette invisibilisation évidente des détenus, de leur quotidien et de leur réalité, c'est un sujet particulièrement traité dans les productions artistiques, la pop culture, la littérature, et peut-être particulièrement aux États-Unis, pays qui compte l'une des plus grandes populations carcérales au monde. Depuis que les prisons existent, les écrits de prison remportent un franc succès auprès des lecteurs, évoquant notamment la biographie de Malcolm X, véritable référence en la matière, ou celle de Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté, initié alors qu'il était emprisonné au pénitencier de Robben Island en Afrique du Sud. À la télévision aussi, les prisons fascinent. On pense à Prison Break, déjà, qui a bercé l'adolescence de certaines, ou à Orange is the New Black, l'histoire d'un groupe de femmes détenues aux États-Unis. La critique Gina Dent, professeure d'études féministes à l'Université californienne de Santa Cruz, affirme que le sentiment de familiarité que nous éprouvons au regard des prisons vient d'ailleurs la plupart du temps des films et autres séries que nous regardons. Pour ainsi dire, ces productions audiovisuelles font des prisons une normalité dans notre paysage.
Et en effet, la prison fait partie de notre société, comme un morceau inamovible mais invisible de notre monde. Elle existe, on le sait, mais que s'y passe-t-il à l'intérieur? Et dans ce contexte, il est intéressant à la fois de relater ce qu'il se passe donc dedans, mais aussi de parler de ce que l'on peut vivre après, une fois la peine écoulée. Qu'elle apporte une image très réaliste ou plus romanesque de la détention, la littérature dans ce cas peut être la porte-parole d'un monde qui existe en dehors du nôtre, un univers qui nous est dissimulé. Et elle peut aussi être, pour celles de l'intérieur, les détenues, une fenêtre sur le monde. Celui du dehors, celui qu'elles retrouveront peut-être un jour. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans la Vagabook aujourd'hui?
Aujourd'hui, dans la Vagabook, nous allons parler de Margaret Atwood, de Rachel Kushner, de Mecha Maren et de Marceline Loridan-Evans. Nous allons aussi documenter nos propos avec la revue Dedans Dehors, une revue publiée par la section française de l'Observatoire international des prisons, une association de loi 1901 qui agit pour le respect des droits de l'homme en milieu carcéral.
Oui, il s'agit du numéro de décembre 2019 qui est consacré à la condition des femmes détenues, justement, et qui est documenté par un formidable travail d'enquête de terrain avec des données sociologiques et statistiques, et ça a été précieux pour nous.
Oui, absolument. Nous allons également citer tout au long de cet épisode l'essai d'Angela Davis paru au Diable Vauvert, La prison est-elle obsolète, un livre qui explore notamment le lien entre esclavage et détention massive des Noirs américains dans les prisons du pays, et qui invite à réfléchir au système carcéral dans tout ce qu'il implique d'inégalité, d'invisibilité et de stigmatisation pour toute une population racisée.
Alors, Margaret Atwood a publié en 1996 Captive. Margaret Atwood, vous la connaissez, c'est l'autrice canadienne qui est l'autrice donc, de La Servante écarlate. Captive raconte l'histoire de Grace Marks, une jeune domestique impliquée dans un double meurtre et condamnée à perpétuité pour cela. Une quinzaine d'années après sa condamnation, elle est jugée innocente par une partie de la communauté. Elle devient donc la patiente d'un jeune psychologue, le docteur Jordan, qui officie aux premières heures de la psychanalyse. Est-elle coupable? Que cachent ces trous de mémoire dont elle dit être la première victime?
Alors, le Mars Club a été publié en août 2018 aux éditions Stock. C'est un roman de l'américaine Rachel Kushner. Il raconte la vie de Romy Hall, 29 ans, prisonnière d'une prison pour femmes californienne, condamnée à une double peine à perpétuité plus 6 ans, après avoir assassiné un homme qui la harcelait. Romy survit tant bien que mal en s'accrochant à l'espoir de retrouver un jour son petit garçon. Le roman oscille entre souvenirs à San Francisco, quotidien en prison et la raison de son arrestation.
Le premier roman de Mecha Maren vient d'être publié chez Gallmeister. Intitulé Sugar Run, c'est un livre très cinématographique qui nous plonge dans l'après. L'après-prison pour une femme nommée Jodie et qui a vu sa peine à perpétuité se transformer du jour au lendemain en liberté conditionnelle. Comment réapprendre à vivre ? La vie nous laisse-t-elle seulement une nouvelle chance ? C'est tout le sujet de ce premier roman.
Et pour clore cette émission, il nous tenait à cœur de parler de l'œuvre de Marceline Loridan-Evans, brillante et intellectuelle française rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau, grande amie de Simone Veil, avec qui elle ne cessa de partager toute leur vie durant ce souvenir terrible des camps. Dans un livre magnifique, Marceline Loridan-Evans raconte ce que ça veut dire aimer, désirer quand on est une survivante de la Shoah. Le livre s'appelle « L'amour après ». Captive a été publiée en 1996 par Margaret Atwood, autrice canadienne, ouvertement féministe, femme de lettres éclairée, passionnée d'histoire, qui est particulièrement connue pour son roman La Servante écarlate.
Et pour Captive, l'inspiration lui est venue en fait d'un fait divers qui fit beaucoup de bruit au Canada au milieu du 19e siècle. Mm-hmm. Il s'agissait grosso modo de la même histoire que celle qu'elle raconte dans le livre, à savoir l'assassinat froid d'un riche bourgeois, Mr. Kinnear, et de sa servante Nancy par deux employés de leur maison, Grace Marks donc, et James McDermott. C'est en lisant un livre d'une écrivaine canadienne, qui s'appelle Susanna Moody, racontant la société canadienne au milieu du 19e siècle, que Margaret Atwood découvre cette histoire qui, en fait, est réellement digne d'un roman, c'est très romanesque. Dans son récit, elle insère d'ailleurs des extraits du livre de Susanna Moody à chaque début de chapitre. Sont des extraits assez détaillés et comme une référence d'ailleurs très journalistique aux faits romancés ensuite.
Ouais. Alors du coup, nous sommes en 1859. Grace Marks est prisonnière d'un pénitencier canadien. À 16 ans, elle a été jugée coupable de la complicité de deux meurtres atroces. Elle échappe de peu à la peine de mort, mais est condamnée à une réclusion à perpétuité. Elle est donc prisonnière au sens littéral du terme. Elle est incarcérée dans une prison. Y passe toutes ses nuits, ne sort que pour effectuer ses heures de travail chez une famille bourgeoise ou un docteur. Le docteur Jordan étudie son histoire et son subconscient, tentant de raviver des souvenirs qu'elle dit avoir oubliés.
Oui, et du coup, effectivement, du fait de ses heures de travail dans cette famille bourgeoise, c'est dans la famille du gouverneur de la prison, justement. Elle donc bénéficie d'un traitement un peu plus clément à cette période de l'histoire. Mais malgré tout, Captive apporte une vision assez horrifique des détenus, notamment à travers les flashbacks de Grace Marks quand elle raconte son histoire au docteur. Par exemple, au tout début de son procès, de son incarcération, Grace a été jugée folle. Elle a donc fait face en fait à l'internement en asile où les conditions de détention sont aussi horribles que celles de la prison. D'ailleurs, Angela Davis nous en parle dans son essai « La prison est-elle obsolète ?» Envoyer des femmes en asile psychiatrique à cette période était plus que répandu, même après cette période d'ailleurs, et c'était en fait un moyen entre guillemets de se débarrasser des femmes qu'on jugeait gênantes, considérées plus déviantes que criminelles par leur famille ou par la société, alors qu'en réalité elles n'étaient coupables d'aucun crime. Et tout ceci même lorsque l'incarcération en elle-même a commencé à devenir la norme en termes de châtiment. C'est-à-dire qu'avant, pour rappeler rapidement, le châtiment en soi, c'était les punitions corporelles et la peine de mort. L'incarcération était juste ce moment de l'attente vers cette punition. Voilà, donc en fait, finalement, l'internement était en fait une forme de châtiment déguisé, comme le dit Angela Davis. Et l'histoire de Grace, du moins au début, en témoigne.
On pourrait aussi parler de toute la haine en fait, que peuvent cristalliser, dans tous les cas, les femmes qui commettent des meurtres.
Ouais.
Une haine très bien expliquée par Angela Davis de nouveau. Elles sont vues comme, je cite, « des femmes déchues sans la moindre chance de salut ». Elles ont, en fait, car elles ont transgressé les principes moraux fondamentaux de la féminité.
On ne savait pas qu'ils existaient, ceux-là.
Exactement. Elles sont donc en fait doublement coupables. Et les réactions autour de Grace montrent parfois ça. Cette crainte aussi, en fait, on a peur d'une femme qui a pu commettre un meurtre. Il y a quelque chose de contre-nature dans le fait qu'un être qui puisse donner la vie soit aussi capable de la retirer.
Ouais. Mmh.
Aussi, ça c'est un autre point caractéristique des femmes incarcérées, c'est les violences qu'elles subissent. Grace, quand elle va travailler, donc dans la maison du gouverneur, elle est toujours accompagnée par deux gardiens qui la provoquent, qui l'insultent, qui lui font des insinuations sexuelles, ils tentent même de la toucher. Et ça, c'est quelque chose de classique, en fait, dans l'univers carcéral. Enfin, je dis pas de systématique, mais en tout cas, c'est pas étonnant.
Mais on l'a retrouvé dans tous les écrits dont
absolument.
On parle.
Absolument. Les femmes sont toujours ou souvent victimes de violences verbales ou physiques de la part des hommes qui sont censés les surveiller, voire de les protéger. Encore aujourd'hui, hein, cette violence, c'est une réalité, en fait, partout dans le monde.
Et dans Captive, cette violence se décline aussi... dans ce que subit Grace, parce qu'en fait, on est dans une époque de, entre guillemets, raisonnement scientifique, où on essaie de trouver une corrélation entre caractéristiques physiques et criminalité, par exemple. Donc, des médecins venaient mesurer, par exemple, la tête des condamnés pour étayer leur théorie sur les criminels, pour les segmenter en typologie, établir un profil de criminel, disons, en puissance.
Ouais, c'est pour le coup des méthodes qui engendrent forcément des violences envers les patients, dont toutes les femmes incarcérées ont pu être victimes, quoi.
Et pour passer sur un sujet plus métaphorique, dans ce livre, la métaphore de la captivité est déclinée sur des sujets multiples, et notamment ces prisons mentales qui étouffent en fait toutes les membres de cette société du 19e siècle canadienne, enfin nord-états-unienne, je dirais. C'est assez caractéristique justement de cette époque, et tout le monde en souffre en fait, qu'ils appartiennent à la bourgeoisie ou aux classes plus défavorisées, et c'est ce que Margaret Atwood nous montre aussi dans le livre.
Absolument, et pour revenir un peu plus précisément sur Grace, elle est prisonnière de manière plus subjective dès son enfance en fait. Elle est prisonnière de sa famille, de ses parents, de sa condition sociale. Les femmes de sa condition en fait ne peuvent vraiment espérer à autre chose qu'être bonne, femme de chambre, servante. C'est un peu son destin, quoi.
Et effectivement, quand elle raconte son enfance au docteur Jordan, on se rend compte que du coup, elle a eu un père très violent, une enfance très très pauvre. Ils sont très pauvres, ils viennent d'Irlande à la base. Elle est donc contrainte de travailler très jeune. Et on pourrait presque dire qu'en fait, elle passe de prison en prison. Parce qu'elle est d'abord en Irlande, ils sont obligés de fuir le pays à cause de magouilles de son père. Bref, le bateau qui les amène au Canada ressemble clairement à une prison flottante. Elle fait un récit assez horrifique de la traversée pendant ces 8 semaines. Et puis en fait, finalement, la maison où elle est placée en tant que domestique, à mon sens, devient un peu une prison aussi, puisqu'elle est obligée d'y être à demeure, c'est précisé justement. Elle a 13 ans et elle est obligée d'aller habiter ailleurs pour être servante, quoi.
Absolument, et puis elle est aussi prisonnière de fait de son genre. Captive, c'est d'une certaine manière une photographie de ce que signifie être une femme en 1820. Dans son rapport avec les hommes au cours de sa vie, avec son père, avec ses collègues, avec le docteur Jordan en Suisse, qui lui pose des questions particulièrement sottes sur la tenue d'une maison, par exemple. Mais d'ailleurs, pendant qu'on parle de lui, le personnage du docteur est très intéressant, car en fait, d'un côté, il est très évolué pour son temps, notamment sur les questions sociales.
Oui, et bien sûr, progressiste.
Oui, bien sûr, et sur les questions psychologiques. Il est dans une pratique qui n'est pas sans rappeler les prémices de la psychanalyse, mais il est tout de même aussi le reflet de son époque en termes de rapport aux femmes. Par exemple, il juge sans cesse le physique de toutes les femmes qu'il croise. Il ne sait absolument pas faire cuire un œuf et il s'offusque qu'il soit obligé de faire la vaisselle. Cette posture de l'autrice est très intelligente car elle met en lumière le fait qu'il y a 150 ans, la place de la femme, alors même que c'était le temps de tout un tas de progrès, n'était absolument pas questionnée.
Oui, et donc comme on le disait, ces personnages évoluent dans une société très étouffante et l'exemple le plus simple serait les vêtements. Et je trouve que Margaret Atwood, elle a vraiment la patte pour décrire ce genre de choses. On parle par exemple de la crinoline et du corset comme étant des objets qui entravent clairement les femmes dans leur liberté de mouvement. À un moment donné, il y a un personnage de la bourgeoisie qui veut s'asseoir sur un canapé, je crois, et qui est en galère parce que elle a une jupe avec une crinoline, enfin bref. Ou par exemple, lorsqu'elle sort dans la rue, donc Grace, elle est obligée de porter une coiffe très large sur les côtés qui empêche en fait la femme d'avoir une vision large. La femme en fait est obligée de tourner la tête pour voir sur les côtés et on sent que c'est un moyen de brider tout simplement la curiosité de la femme qu'elle n'a pas à voir plus loin que le bout de son nez. Quoi,
comme dans La Serpente Écarlate.
Oui, aussi, du coup elle a réutilisé ce truc. Ouais. Pour le costume, pour l'habillement des servantes écarlates.
Ouais. Ouais.
Et du coup, on s'interroge en fait sur le poids de cette société, sur le geste meurtrier présumé de Grace, car quoi qu'en disent en fait les scientifiques de l'époque avec leur théorie déterministe, elle n'est pas une personne qu'on imagine violente au début. Elle avoue même au docteur Jordan avoir pensé à tuer ce père tyrannique et très violent avec elle, à le faire passer pour un accident, mais en fait c'était une rêverie de gamine opprimée, et en fait elle en fait rien, et elle précise même que c'est des idées avec lesquelles elle était... elle était horrifiée d'avoir ce genre d'idée. Quoi,
elle est très pieuse, en fait. C'est une fille très pieuse.
Oui. Ouais. Et en fait, si elle est effectivement coupable, qu'est-ce qui l'a rendue si violente? Donc ça pose la question de la violence qui vient en premier, même si évidemment le meurtre n'est pas excusable en soi. Mais combien de violences renferme une vie de servitude telle que celle de Grace Marks qui puisse, entre guillemets, expliquer ce passage à l'acte?
Rachel Kushner est américaine. Aux États-Unis, elle a atteint une forme de popularité avec son roman Les Lance-Flammes, qui mêle sa passion pour la photographie et pour la moto. D'elle-même, elle a écrit dans le magazine America venir d'une lignée de femmes qui vivent selon leurs propres règles. Des femmes fortes. Son troisième roman, Le Mars Club, publié chez Stock, dresse d'ailleurs le portrait d'une femme de ce genre-là, une femme forte, une femme charismatique.
Et cette femme, c'est Romy Hall, qui a 29 ans. C'est une ex-stripteaseuse du Mars Club, justement, qui donne son, son titre au livre. Une boîte un peu minable des bas-fonds du Tenderloin, qui est un quartier qui craint de San Francisco, qu'on nous recommande toujours d'éviter d'ailleurs quand on visite la ville pour la première fois. Donc Romy vient d'être condamnée à deux peines à perpétuité, plus 6 ans, précision importante. Ouais. Et le livre pose en fait la question de comment continuer à vivre quand on sait qu'il ne reste plus rien.
Alors le roman retrace son chemin et le quotidien qu'elle s'efforce de supporter dans la prison pour femmes de Stanville en Californie, dans la vraie vie, celle des millions d'Américains qui ne vivent pas dans un roman, celle que chante Johnny Cash. La Californie possède 33 établissements pénitentiaires. C'est énorme, près de 200 000 personnes y sont emprisonnées aujourd'hui. La plus grande prison pour femmes du pays s'y trouve. Elle s'appelle la Valley State Prison for Women, qui renferme plus de 35 000 détenus. C'est dans cette prison que Rachel Kushner a décidé d'incarcérer son héroïne, à Stanville donc, là même où un autre établissement réservé aux femmes, le Central California Women's for Facility, qui comptait lui aussi 35 000 prisonnières en 2002, a été construit. Littéralement, le trottoir juste en face, un peu au milieu de rien, perdu entre Yosemite et la côte ouest, Big Sur et San Francisco. Cette Californie que l'on contourne, où l'on ne fait jamais que passer.
Et d'ailleurs, derrière les champs qui bordent la route, donc 70 000 femmes purgent des peines plus ou moins longues. Et le Mars Club, c'est un roman qui raconte ce quotidien-là. Les chaînes une fois par semaine, l'isolement, le travail dans l'atelier de menuiserie. Mais aussi les relations que le personnage peut nouer avec ses co-détenus, qui sont d'ailleurs pour la plupart noires ou latinas, et même une femme transgenre qui s'appelle Conan. Donc à travers ces personnages, on a une vision des personnes de la population incarcérée aux États-Unis. Mm-hmm. Et d'ailleurs, pour la précision, et on en parlera ensuite, mais les minorités dans ces prisons américaines sont souvent les communautés les plus représentées. D'une certaine manière, ce livre raconte la violence de se savoir ici pour toujours, de se demander et si j'avais fait autrement, qu'est-ce qui aurait pu changer, et surtout quel est le sens de la vie quand il n'y a plus aucune perspective d'avenir hormis celle qui s'inclut dans ce lieu-là, quoi. au-delà de ça, elle est aussi confrontée, et c'est le plus terrible, je crois, elle est confrontée à sa lutte silencieuse pour savoir ce qu'est devenu donc Jackson, son fils. Et parmi tout ça, parmi les flashbacks qui racontent sa vie d'avant, on a une idée aussi du San Francisco qu'il a vu vivre, du club de striptease où elle était employée et où tout a commencé. Et finalement, une seule question persiste. Que lui est-elle arrivée, en fait? Comment elle a fait pour se retrouver là, privée de toute liberté et condamnée à ne plus jamais revoir ni San Francisco, ni ses rues?
Alors, quand on lit un roman sur une femme emprisonnée, la question de la culpabilité est sous-jacente. Enfin, en tout cas pour moi, ça l'a été. quelle faute, en fait, peut-on pardonner en tant que lecteur, lectrice en l'occurrence? Que faire si on s'attache à un personnage dont la faute nous dépasse? Sommes-nous en mesure, toujours en tant que lectrice, de passer outre un péché condamnable? Dans The Mars Club, comme dans le livre dont nous parlerons après, Sugarman, la faute n'est révélée qu'à la toute fin. Peut-être pour laisser planer ce doute et aussi cette possibilité, s'attacher à une femme dont on juge ou pas les actions. Il y a aussi de fait une identification qui se forme. Qu'aurais-je fait, moi? Le roman, je trouve, offre cette possibilité. Ce questionnement qu'un fait divers n'offre pas. Un reportage sur une meurtrière, par exemple, ne laisse pas de porte ouverte à une quelconque compréhension, une étude des raisons. Un roman fait ce travail-là.
Il va jouer sur l'empathie.
Absolument.
Et l'attachement qu'on a au personnage. En l'occurrence, je me suis beaucoup attachée au personnage de Romy. Et c'est vrai que c'est terrible quand on a tout le cheminement de son procès, etc.
Et de Jodie aussi dans Sugar Run. Et d'ailleurs, l'attachement est d'autant plus... On ne vous raconte pas du tout ce qui se passe dans ces bouquins à la fin, parce que ça n'a pas de sens. Mais Jodie, c'est d'autant plus perturbant, en fait.
C'est vrai. Et d'ailleurs, dans tout ça, c'est qu'il faut préciser quand même que le meurtre de Romy a été commis en légitime défense. Ce qui change un peu la donne, justement, dans ce regard dont tu parlais, qu'on apporte aux gestes criminels, elle est aussi victime d'un procès mené presque comme une mascarade, puisqu'en fait, elle n'a pas du tout les moyens de se payer un avocat. Donc, un avocat commis d'office lui est assigné. Lui ne réussit pas à faire valoir la légitime défense, donc elle se retrouve condamnée à une peine extrêmement lourde, ce qui illustre aussi au passage l'inégalité devant la justice, presque l'injustice de la justice, c'est-à-dire qu'avec une bonne défense, on sent qu'elle aurait pu avoir une peine bien moins lourde.
Ouais, c'est sûr.
Et l'appui des jurés, etc. Et on peut aussi se poser la question de, est-ce que c'est parce que c'est une femme qui a tué un homme ? Parce qu'en fait, cet homme l'a harcelée, la mettait en danger, elle, son fils. Et en fait, elle a été poussée à ce geste parce qu'elle protégeait sa vie et celle de son fils. Mmh. Donc là, la revue, par exemple, de l'Observatoire international des prisons nous a donné quelques clés et effectivement quelques données d'études quantitatives menées sur ce sujet. Parce qu'il semble que la justice semble plus cruelle envers les femmes que les hommes, et notamment sur cette question-là de commettre un homicide sur conjoint ou ex-conjoint. Les femmes, en général, subissent des peines beaucoup plus lourdes que les hommes dans le cas d'un homicide dans ces circonstances, alors même qu'il a été également prouvé que très souvent, lorsque c'est la femme qui commet cet homicide, elle est en état de légitime défense dans un contexte de violence conjugale.
Et rappelons juste une petite donnée qui est complètement hallucinante de cette revue. Il disait qu'à peu près 100% des incarcérés aujourd'hui en France ont été victimes de violences de la part d'un homme. Mmh. C'est-à-dire que presque toutes les femmes incarcérées en France aujourd'hui ont au préalable été victimes de violences. Mmh. C'est hallucinant. Hallucinant. Mmh. Et pour revenir au livre, il ne reste pas moins que la réalité de Romy Hall est celle-là. Elle est incarcérée à perpétuité. Et donc, n'empêche qu'il faut bien, s'occuper
en prison. Avoir des perspectives. C'est
ça.
Un petit peu.
C'est ça. Angela Davis met en lumière dans son œuvre l'importance colossale d'ouvrir et de pérenniser un accès à la culture dans les prisons. Cela passe par la création d'ateliers d'écriture ou de programmes éducatifs et par un accès à la littérature et à une bibliothèque. Mettre à disposition des livres pour les détenus leur permet d'acquérir une autonomie de la pensée. À Stanville, pour revenir donc au Mars Club, Romy fait la connaissance de
Gordon Hauser,
qui est un prof en institution pénitentiaire. Ils aiment tous les deux la lecture, ça leur fait un point commun. Il lui fait même envoyer 3 bouquins. Il y a Mon Antonia de Willa Cather, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee et Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. 3 grands classiques de la littérature américaine, tous écrits par des femmes, vous noterez, mais tellement classiques qu'elle les a déjà lus ados. Mais c'est le début d'une sorte d'amitié. G. Hauser devient Gordon au fur et à mesure que le bouquin avance. Elle emploie son prénom pour parler de lui. Une familiarité se crée. Elle le protège un peu quand on se moque de lui, ce que beaucoup font. Et c'est à ce moment que lui vient l'idée, peut-être, de l'utiliser comme son unique contact avec le monde extérieur et donc avec son fils.
Ce livre et celui de Margaret Atwood sont en fait, pour moi, à mon sens, les plus parlants des conditions de détention pour les femmes condamnées. Et ils illustrent d'ailleurs assez bien la, entre guillemets, double peine, expression régulièrement utilisée pour parler des femmes détenues. Et d'ailleurs, pourquoi parle-t-on de double peine ? Eh bien, tout d'abord parce qu'il n'y a que 2 établissements pénitentiaires pour femmes en France. Donc, les femmes incarcérées sont souvent mises dans des quartiers réservés à l'intérieur des prisons pour hommes. Si bien qu'elles aussi, même si elles sont moins nombreuses, évidemment, que les hommes, elles subissent la surpopulation carcérale. Et comme les hommes sont majoritaires, la plupart des activités sont faites pour eux et en zone non mixte, ce qui réduit considérablement les possibilités d'activité en fait, pour les femmes
leur accès
en détention. Elles sont aussi plus isolées que les hommes, car les quartiers pour femmes sont en fait assez mal répartis sur le territoire. Donc là, on parle de la France. Elles sont souvent en situation d'éloignement du coup de leur famille, puisque elles peuvent vivre à Rennes et être emprisonnées
à Strasbourg.
Merci. Oui. Ajouter
même
que
si je dois dire des inepties, il n'y a peut-être pas de prison pour femmes à Strasbourg.
Oui, potentiellement, mais c'est un exemple. Et ajouter que, justement, les études montrent que souvent, malheureusement, les maris, enfin, les conjoints se séparent de leurs conjointes quand elles sont incarcérées. Nota bene, à contrario, les femmes restent et soutiennent quand c'est l'homme qui est incarcéré. De la même manière, ce sont des études de la revue de Dents Dehors qui nous a donné ces données. À cela s'ajoutent les spécificités d'être une femme dans ce genre de conditions, c'est-à-dire, là on parle de, par exemple, la précarité menstruelle, qui est donc une réalité encore plus handicapante, et encore c'est un euphémisme pour les femmes incarcérées. En prison, les produits périodiques sont très chers, Il faut cantiner pour pouvoir s'acheter des produits variés. Et donc, les produits périodiques sont très onéreux, si bien qu'en général, les détenues ne peuvent pas se les payer. Elles en sont donc réduites à devoir trouver des solutions de dernier recours, des chaussettes, des gants de toilette, enfin, des produits complètement inadaptés, ou bien à limiter justement les activités proposées par la prison, de peur de devoir, par exemple, tacher leurs vêtements en période menstruelle sans protection. Donc on a lu des enquêtes assez alarmantes sur ce sujet. Et effectivement, on se dit que si toutes ces choses effectivement sont abordées dans les bouquins de près ou de loin, on se doute qu'en fait on est encore assez loin de la réalité actuelle. Mecha Maren est américaine. Elle est née dans les Appalaches, une chaîne de montagnes qui s'étend sur la côte est des États-Unis. Son premier livre, Sugar Run, vient d'être publié aux éditions Gallmeister. Son père est visiteur de prison, on comprend donc d'où elle a puisé son inspiration pour son livre.
Alors dans Sugar Run, on est au fin fond des États-Unis, l'Amérique un peu white trash, un peu redneck. Il y a aussi un peu de road movie classique américain, c'est très cinématographique. Il y a parfois un petit côté Thelma et Louise. On a en tête des images de longues routes désertiques, des motels peu fréquentables sur le bord de la route, la station essence au milieu de nulle part. Ce livre est vraiment composé comme ça, d'une succession d'images hyper parlantes. En fait, il a tout du scénario. On imagine une mise en scène très photogénique qui accompagne des personnages complètement cabossés qui se débattent dans l'espoir d'une vie meilleure.
Et justement, l'histoire, c'est en fait une idylle entre deux femmes complètement paumées. D'un côté, on a Jodie qui sort après 18 ans de prison pour meurtre. Elle vient d'être libérée du jour au lendemain alors qu'elle elle avait été condamnée à perpétuité. Elle est donc en liberté conditionnelle. En sortant, elle se souvient d'une vieille promesse faite avant son incarcération, avant le drame qui a scellé sa vie 18 ans plus tôt. En chemin, elle croise la route de Miranda, qui est divorcée d'une star déchue de la country américaine. Et elles se mettent ensemble sur la route. Et Jodie, elle, pour rentrer chez elle et réparer justement une erreur de son passé. Miranda, elle, pour fuir son ex-mari qui veut lui enlever la garde de ses fils. Et dans cette fuite, en fait, on se rend compte que leurs rêves ne sont pas si ambitieux. En fait, Jodie, très modestement, entre guillemets, souhaite retrouver sa ferme et se lancer dans l'élevage pour mener une vie tranquille à la campagne. Et Miranda veut juste retrouver ses trois fils que son mari lui a enlevés. Donc, en fait, elle ne demande pas grand-chose et pourtant, elle lutte sans cesse pour y arriver. Et c'est donc l'histoire de ces femmes et plus précisément de la lente reconstruction de Jodie après 18 ans de détention.
Ouais, mais encore une fois, il y a une question qui reste toujours en suspens, comme on disait tout à l'heure. Que faire de sa vie quand on a passé 18 ans derrière les barreaux et qu'on ne pensait pas sortir un jour? Peut-on simplement reprendre sa vie là où on l'avait laissée? Et d'ailleurs, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Reprendre tout là où ça s'était arrêté? Pour reprendre les mots d'Angela Davis, la prison a de fait été créée pour séparer des individus de leurs proches et de leur communauté. On ne peut donc pas espérer reprendre tout bonnement sa vie là où on l'avait laissée en y entrant. Pourtant, Jodie rentre chez elle. Elle y retrouve une famille qu'elle ne connaît plus, un monde qu'elle ne connaît plus. Tous les espoirs fondés s'écroulent avec les nouvelles réalités. En fait, pendant son incarcération, quelque chose l'a fait tenir, comme tu disais Léa, le souvenir de la maison de sa grand-mère Effie. Et quand elle est libérée, retrouver cette maison devient une possibilité, une réalité. Retrouver le terrain, faire pousser un potager, vivre simplement, ouais. Quoi. Mais en fait, quand elle y parvient, elle réalise que son rêve a été une chimère, puisque le terrain ne lui appartient plus, n'appartient plus à sa famille. Ça a été racheté entre-temps, donc même un rêve aussi simple que cultiver la terre de ses ancêtres, n'est pas accessible à Jodie. Elle est condamnée aux magouilles, aux mauvais whisky, aux relations malsaines. Son frère Denis qui lui demande, mais en fait qui ne lui laisse pas le choix, d'entreposer de l'herbe dans sa maison... alors qu'elle est en liberté conditionnelle quand même, et qui lui demande ensuite d'héberger une Mexicaine sans papier. Il y a un peu un acharnement du destin, un déterminisme social évident et incontournable.
Et ça pointe du doigt le fait qu'on se rend pas compte à quel point ce réapprentissage de la liberté est difficile. Ouais. Il suffit pas juste de se dire, tiens, j'ai obtenu ma liberté conditionnelle et voilà, on avance comme ça. En fait, on sent tout au long du livre que son libre arbitre qui vient de lui être restitué avec la liberté lui pèse comme un vrai fardeau. C'est-à-dire que les décisions qu'elle prend sont toujours teintées de maladresse, d'inconfort et pèsent énormément toutes sur sa conscience parce que quand elle était incarcérée, elle avait pas de libre arbitre, donc c'était.
Elle avait pas de décision.
Voilà, donc elle fait ce premier apprentissage et c'est assez difficile. Et puis de manière plus concrète, il faut réapprendre à vivre et aussi essayer de fonder de nouveau quelque chose. Et donc il faut gagner de l'argent pour ça. Donc elle se met en recherche d'un travail. Sauf qu'avant sa libération, elle n'avait pas pensé à la difficulté que ça pouvait représenter. Déjà, pour commencer, elle a été incarcérée à 17 ans. Donc elle ne sait rien, en fait, du monde du travail. Et il faut penser aussi que la société elle-même est très frileuse à l'idée de réinsérer des ex-détenus dans le circuit professionnel. Donc, en fait, elle voudrait pouvoir trouver un bon job et être ambitieuse, ou même ne serait-ce qu'en fait obtenir un job qui lui permette de gagner de l'argent. Mais pour ça, il faut remplir un formulaire de candidature où on doit signaler sa condamnation. Donc, plus d'une fois, en fait, elle n'est pas capable de remplir ce fameux formulaire et elle abandonne parce qu'elle devine déjà probablement qu'elle ne sera pas embauchée à cause de ça, quoi.
Ça fait surgir tout un tas de questions sur la réinsertion des ex-prisonnières, tout ça. La revue Dedans Dehors nous rappelle qu'en principe, chaque détenu devrait pouvoir bénéficier d'un retour progressif à la liberté. Cela passe par la surveillance électronique, la liberté conditionnelle, notamment, dont bénéficie d'ailleurs Jody. Hein.
Oui, et d'ailleurs, cette liberté conditionnelle est censée venir avec un accompagnement d'aide au retour à l'emploi, etc. Mais bon, il se trouve que c'est difficile et rarement le cas.
Ouais.
Et de toute façon, pour bénéficier de ce retour progressif à la liberté, il faut avoir des gages de réinsertion comme une formation, une promesse d'embauche. Et en fait, comme on le disait, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes parce que du fait d'être isolées au sein des centres pour hommes, elles ont beaucoup moins accès aux offres de travail et de formation qu'eux. Et l'un des critères aussi pour bénéficier de ce retour à la liberté, c'est de justifier d'une attache familiale ou d'un logement. Or, les femmes sont bien plus victimes de ruptures de liens familiaux que les hommes.
Ouais, et le regard d'Angela Davis là-dessus nous apporte une réflexion plus systémique de cette question de la réinsertion, puisque pour elle, la prison est un outil politique de répression raciste et de séparation sociale. Aux États-Unis, les prisons comptent 2 500 000 prisonniers. Mmh. C'est la première population carcérale
c'est
du
énorme.
Monde. C'est énorme. Le système carcéral américain reproduit par les incarcérations de masse perpétrées dans les années 70 puis 80 un système raciste et oppressif puisqu'il cible principalement les populations pauvres, noires, hispaniques. C'est un système qui se fait l'héritier de l'esclavage, du louage des détenus, des Jim Crow laws. À ce sujet, d'ailleurs, on vous conseille vraiment, ouais. vraiment, de regarder le documentaire qui est disponible sur Netflix d'Ava DuVernay qui s'appelle The 13th. Ouais. C'est terrifiant, ouais. mais très important.
On tombe de sa chaise.
Complètement.
et oui, il fait référence au 13e amendement de la Constitution.
Oui, absolument. Absolument. Ouais. Mais donc, pourquoi ce système est-il oppressif et raciste ? Puisqu'en fait, dans certains États, le droit de vote est retiré à certains condamnés, puisqu'il est extrêmement difficile de trouver un travail après avoir été condamné, les ex-condamnés sont sortis de la vie citoyenne, en fait, du fait de leur passage
ouais.
en prison.
Donc en fait, la prison marginalise ceux qu'elle est censée réinsérer.
Absolument.
Et d'ailleurs, sur ce sujet, cet essai d'Angela Davis est extrêmement pertinent.
Bah ouais, c'est un peu une mine d'or. Pour faire un petit point sur Angela Davis elle-même, en fait, elle est engagée depuis les années 70 contre la répression carcérale. Mmh. Elle-même, en fait, elle a expérimenté l'horreur de la prison, puisqu'elle a été emprisonnée pendant 22 mois en marge d'une prise d'otage visant à libérer George Jackson, qui était un membre des Black Panthers, condamné à la prison à vie à l'âge de 18 ans pour un vol de $70. Mmh. Ce vol était donc ce qu'on appelle chez moi un prétexte. Angela Davis n'était pas sur place lors de cette prise d'otage, mais elle est accusée par le FBI d'avoir procuré les armes utilisées lors de l'enlèvement. Elle atterrit alors sur la Most Wanted List du FBI, la liste des personnes les plus recherchées du pays. La traque dure 2 mois, et finalement elle est arrêtée le 13 octobre 1970. Elle est accusée de meurtre et de séquestration, et pour ces accusations, elle encourt la peine capitale, la peine de mort. Dans l'attente de son procès, elle passera 16 mois au Women's Detention Center de New York.
Et justement, c'est dans ces mois-là de détention que l'opinion publique se mobilise de manière assez extraordinaire. Partout dans le monde, on réclame sa libération. À Paris, par exemple, des 100 000 personnes manifestent avec en tête de cortège, notamment Sartre ou Aragon. Les artistes en font des chansons, des poèmes. John Lennon et Yoko Ono chantent la chanson Angela. Les Rolling Stones écrivent et composent pour elle Sweet Black Angel. En fait, c'est cette pression internationale qui permettra son acquittement en juin 72. Elle est débarrassée de toutes les charges retenues contre elle à l'occasion justement d'un procès extrêmement médiatique. Tout ça pour dire qu'Angela Davis connaît son sujet et en fait elle étudiait déjà le système carcéral avant cela et depuis elle n'a jamais cessé justement de militer pour la suppression, notamment pour la suppression des prisons et dans tous les cas pour une refonte totale du système carcéral.
L'amour après évoque, comme son titre l'indique, la grande question de l'après. C'est un livre à part, puisqu'il évoque des conditions de détention bien particulières. Marceline Loridan-Evans a été déportée parce que juive à Auschwitz-Birkenau. Elle y a passé plus d'un an, de 1944 à 1945. Elle avait 15 ans. Publiée en 2018 aux éditions Grasset, L'amour après est le troisième roman de Marceline Loridan-Evans, coécrit avec la journaliste et autrice Judith Pérignon. Elle a aussi participé à un récit collaboratif de témoignages sur l'horreur des camps, Traces de l'enfer, paru en 2015. L'amour après est le deuxième volet d'un diptyque évoquant la question des camps. Le premier, Et tu n'es pas revenu, raconte son arrestation puis celle de son père. Avec l'amour après, elle revient sur sa reconstruction, non pas physique, de son retour des camps, mais de son apprentissage de l'amour, du sexe et de la sensualité.
Et oui, en fait, c'est un livre presque testamentaire, puisqu'elle revient en fait sans phare sur ses relations avec les personnes qui ont peuplé son existence. Elle refait le fil de sa vie, pardon, en réouvrant une valise qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Et en fait, c'est une valise où elle garde toutes les lettres, les souvenirs liés à ses amours et ses amitiés du passé et du présent. Et alors, pourquoi parler de l'amour quand on a été déporté ? Puisque, comme le dit si justement une de ses proches, elle aussi rescapée des camps, l'amour au camp, il n'y en avait pas beaucoup. Mais Marceline Loridan a décidé d'en parler. Elle fait de l'amour le témoin de sa reconstruction. Parce qu'au-delà de la lutte pour sa survie pendant sa détention, c'est aussi en fait son rapport au corps et à l'amour qu'elle a dû reconstruire après sa libération des camps. Comme elle le souligne, ces années d'enfermement si jeunes l'ont privée de cette période d'éveil qui est l'adolescence. Et en fait, elle dit, c'est douloureux à lire, que son apprentissage de l'amour et du corps s'est fait de manière très cruelle, puisqu'il s'est fait au travers de la violence qu'elle a subie lors de sa détention. Mmh. Et donc, à son retour, comme tous les autres rescapés survivants de la Shoah, le temps est venu de la reconstruction, de son réapprentissage, de son rapport à elle-même et aux autres, justement. Et justement, cette reconstruction, elle ne se fait pas d'un coup. Elle est bien loin d'être facile. Malgré cet instinct de survie qu'on sent qu'elle a conservé et voilà, on sent qu'elle est une femme forte, elle a quand même fait deux tentatives de suicide, elle le partage dans le livre.
Et malgré cela, en fait, elle véhicule un désir de vie féroce, malgré l'incompréhension de ceux qui l'entourent, hein, parfois. Ouais. Elle parle de rab qu'on lui a laissé et qu'elle n'a pas le droit de gâcher. C'est une manière très simple et forte d'illustrer le fardeau et la culpabilité de quelqu'un qui a survécu quand des millions d'autres sont morts. Une cruelle injustice qui est ressentie par ceux qui restent, ceux qui sont rentrés. Elle évoque notamment l'une de ses voisines qui avait été dénoncée par ses beaux-parents et qui, elle, n'est jamais revenue.
Et ce temps de la reconstruction qu'on sait aujourd'hui... hyper important, mais à la lumière de ce qu'on sait sur la psychanalyse, à l'époque, on le laissait pas trop aux rescapés de la Shoah. En fait, l'entourage autour ne voulait que cette période soit oubliée et que les rescapés avancent, on passe à autre chose. Voilà. Et justement, cet état d'esprit est incarné par la mère de Marceline, qui, comme tant de mères de son entourage, elle a cherché tout de suite à la caser. Elle l'a poussée à partir à la recherche d'un mari et d'une famille à fonder. Mais Marceline n'a pas cédé tout de suite à ce schéma justement préconstruit pour elle. Et c'est probablement ce qui a fait sa force, parce que en fait, au lieu de suivre ce que lui indiquait sa mère, trouve-toi un mari, fais des enfants, etc. elle s'est dit non, je vais vivre ma vie. Donc elle a pratiqué le sexe librement, elle a enchaîné les amants comme elle le dit. Malgré tout, c'est sans réelle conscience de sa propre sensualité. Elle a un récit très entre deux où elle dit que finalement son corps restait secondaire malgré les amants qu'elle pouvait avoir et les découvertes qu'elle pouvait faire au travers de ça. Mais en fait, finalement, c'est pour elle, fréquenter ces hommes signifiait donc désobéir à sa mère, et c'est en fait ainsi qu'elle a reconquis sa liberté. Donc pas vraiment par le plaisir, C'était plus un moyen, en fait, pour arriver à une fin, en fait.
Mais à cause de son passage à Birkenau, elle a aussi été privée de l'éducation normale d'une fille de son âge. Une gamine de 15 ans, en fait, aurait dû être à l'école. Elle devient alors une jeune femme boulémique de culture. Elle a cette phrase « En me déportant, on m'avait aussi arraché à l'école et je préférais me pencher sur ce que je n'avais pas appris que sur ce que j'avais vécu. » Donc, lire pour ne plus penser sans doute, apprendre toujours pour échapper aux souvenirs quand se rappeler devient trop douloureux.
Ouais. Et en fait, c'est son désir d'avancer qu'elle accomplit par la créativité. Elle parle de construire sa bibliothèque imaginaire, justement. Et c'est avec cet éveil créatif et culturel qu'elle préfigure aussi les combats féministes du début des années 70, mais accessoirement avec 10 ans d'avance. Justement, sa boulimie de culture la pousse à se renseigner, à éveiller sa conscience politique et militante. Et aussi, on le voit à travers la correspondance qu'elle restitue dans le roman, cette correspondance qu'elle a avec ses amis de l'époque, où elles parlent toutes hyper ouvertement, justement, de l'avortement, de la liberté. Elle se remémore aussi une jeunesse loin des carcans et de l'autocensure, justement, dans le Saint-Germain-des-Prés des années 50. Voilà, elle a un vrai désir de liberté, en fait. Elle en vient même faire une analogie, en fait, entre les camps et la privation de liberté qu'ils représentent et la vie maritale et le carcan traditionnel. Elle dit « Il faut déserter les modèles, fuir leurs pièges, leurs barbelés invisibles. L'importance, c'est d'avoir de l'air, alors tout peut commencer.
» Alors, son dérivatif, sa guérison, sera justement de se tourner vers le collectif, l'universel. L'engagement politique et militant, entre autres, par le cinéma. Pour finir par mettre sur pellicule sa propre existence à la fin de sa carrière. Et finalement, on s'aperçoit que la guérison ne passe pas, comme on pourrait l'attendre, par l'amour ou le sexe, mais par le travail et l'accomplissement créatif. Elle fait référence à son deuxième mari, qui l'aide à devenir ce qu'elle veut véritablement être. Mais ce n'est pas par l'amour qu'ils se portent qu'elle arrive à cela, c'est parce qu'ils accomplissent ensemble en tant que couple. Il est réalisateur de cinéma, elle l'accompagne dans son travail, ils se nourrissent l'un de l'autre de leur créativité commune.
Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant là, dans ce bouquin, justement, c'est que son récit, qui est donc très intime, se met en miroir une tragédie humaine à l'échelle des millions de vies. Voilà, et c'est cette intimité d'un parcours amoureux et sexuel d'une rescapée, c'est assez...
C'est très fort.
C'est très fort.
Ah ouais, c'est très émouvant.
Justement, il y a sans cesse des allers-retours entre la catastrophe qui s'est vécue en collectif et la solitude, ce vécu très individuel finalement de l'après, de la reconstruction. Et du coup, même si elle a beau faire référence à un cas, donc du coup très particulier de parcours de vie, puisque... Bon, les survivants de la Shoah étaient très peu nombreux. C'est un récit qui résonne en fait de manière très universelle parce qu'il y intègre aussi les expériences d'autres femmes, ses contemporaines, qui lui ont confié dans les lettres, voilà, comme on disait, réflexions sur l'avortement, la détention, la vie maritale, la vie professionnelle ou la créativité. Parler des femmes incarcérées est un bien vaste sujet. Et pour conclure cet épisode, nous avons envie aussi de parler de ces avocates, journaliste, militante, injustement emprisonnée partout dans le monde. Nous aurions pu par exemple parler de Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne et militante pour les droits de l'homme, dont la peine est passée cette année de 5 à 38 ans de prison, en plus d'être condamnée à 148 coups de fouet.
Nous aurions pu parler d'Asli Erdogan, écrivaine turque emprisonnée en 2016, en même temps que 20 autres personnes membres comme elle de la rédaction d'un journal opposé au régime de celui qui, ironie du sort, porte le même nom qu'elle et qui est à la tête du pays, Erdogan. Nous aurions pu parler de Hajar Resouni, emprisonnée au Maroc pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, ou de l'avocate et militante Aza Souliman en Égypte.
Parler des femmes emprisonnées, c'est aussi parler d'elles, de toutes ces femmes qui se battent contre les violences et les injustices. Des femmes emprisonnées pour des raisons que nous ne comprenons plus aujourd'hui, que nous ne pouvons ni comprendre ni tolérer. Des femmes emprisonnées, par exemple, pour adultère ou pour avortement. Des femmes emprisonnées parce qu'elles sont des femmes, tout simplement. Avant de clore cet épisode, nous voulions vous parler de quelque chose. Il s'agit d'une initiative qui s'appelle « Aux oubliés » et l'idée est de récolter des livres personnalisés par un mot, une lettre, et de les envoyer ensuite à des femmes en prison. N'importe qui peut participer, vous, nous, bien sûr. Vous pouvez envoyer le livre de votre choix avec le message de votre choix.
Aux Oubliées est une initiative culturelle, féministe, poétique et solidaire lancée en Espagne il y a un an par María Rufe Lanchas, designeuse espagnole, féministe et militante. Elle avait alors collecté près de 800 livres qui furent ensuite distribués à la prison d'El Soto à Madrid et inauguré avec les détenus un échange sur le pouvoir de la littérature. En France, le premier envoi aura lieu en mars à la prison de Fleury-Mérogis. Rendez-vous sur auxoubliées.org pour connaître toutes les modalités de participation. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde.
Merci.
Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis pour la musique. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. À bientôt.
Salut.